Antoine Grote, bonjour.
Bonjour.
L'État centrafricain, ses méandres de 1966 à 1979, c'est l'intitulé de votre quatrième ouvrage littéraire qui traite de la gouvernance de l'époque de feu empereur Jean-Bédel Bokassa. Pourquoi le choix de ce tome ?
Méandres s'entend par sinuosité décrite par un cours d'eau. En sango, il y a un proverbe qui dit « Ngu abuelo oko lo ba ». C'est-à-dire, l'écoulement solitaire de la rivière détermine des courbes irrégulières et dans des sens différents. Pourquoi j'ai choisi cette période ? Je l'ai choisi à la suite d'un entretien que j'ai eu avec ma fille qui me disait « Papa, j'ai un collaborateur qui m'a demandé de lui parler de Bokassa ». Et je lui ai dit que je vais réfléchir et je vais faire un écrit sur Bokassa.
Vous avez vécu pendant le règne de Dako, Bokassa, Kolingba, Patassé, Bozizé, Samba Panza, Djotodia et aujourd'hui Touadéra. Vous aurez pu écrire un livre sur la gouvernance de ces présidents, mais vous avez mis le cap sur Jean-Bédel Bokassa. Mais dites-nous, en quoi est-ce que la gouvernance de Jean-Bédel Bokassa a un trait particulier par rapport aux autres?
J'ai vécu Oubangui-Chari, j'ai vécu la colonisation française. Voilà, je ne peux pas opposer un président à un autre et tout ça. Et j'ai écrit sur Bokassa parce qu'on me l'a demandé.
Dans ce livre, l'État centrafricain, ses méandres de 1966 à 1979, vous avez abordé plusieurs points. Allons d'abord sur le point de la justice. Vous avez servi pendant l'Empire comme ministre de la justice et dans cet ouvrage, vous avez également soulevé un point irrelatif. Alors, quel était le niveau de la justice à votre époque ?
J'ai parlé des rapports qui existaient entre le pouvoir et la magistrature. Je disais que lors d'une première rencontre avec Bokassa s'était élevé contre les magistrats en disant qu'il entend dire que les magistrats sont indépendants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les magistrats indépendants ? Alors que c'est lui qui paye les magistrats comme les autres. Et puis, il termine en disant qu'il a son fusil et que les magistrats ont leur bic. Et la réunion s'est terminée en queue de poisson. Il y a deux affaires que j'ai portées dans ce livre-là. Il avait porté plainte contre M. Charles Ondoma. Comment cela s'est-il passé ? Charles Ondoma était un dignitaire de l'époque du régime de Dako. Quand Bokassa avait pris le pouvoir, il commençait, disait-il, à mettre fin au désordre, à pourchasser les dignitaires, semble-t-il, pour crime contre les personnes et puis les biens publics. Ondoma, ancien secrétaire général du Mesan, était arrêté et emprisonné en Garaba. Après sa libération, Bokassa reçoit une lettre anonyme dactylographié, contenant des menaces, des injures contre lui. Il fait venir le ministre de la Justice. À cette époque-là, j'étais procureur général après la cour d'appel de Bangui. On me fait venir, Bokassa me dit, de lire cette lettre à haute voix. Je donne lecture à la lettre. Il me dit que Ondoma a déclaré la guerre contre lui. Il faut que j'aille l'arrêter et le mettre en prison. C'est un ordre comme un autre. Respectueusement, je lui ai fait savoir, en présence du ministre de la Justice qui était là, que s'agissant d'une lettre anonyme, la procédure qui pouvait servir pour la manifestation de la preuve, c'était une information judiciaire. On ne connaît pas l'auteur. Bien que la lettre a été écrite au nom de Ondoma, mais ce n'est pas Ondoma qui a fait la lettre. Alors Bokassa crie, menace de m'arrêter à la place de Ondoma pour me mettre en prison.
Donc en un mot, les hommes de la justice à l'époque avaient les mains liées dans leur travail, c'est ce que vous voulez dire?
Il y avait des pressions, pas des mains liées. Mais celui qui subit la pression a lui de céder, de ne pas céder.
On disait également à l'époque de l'Empire que les voleurs avaient une oreille amputé. Est-ce que vous le confirmez et ça se faisait dans quelles conditions?
Oui, c'est vrai, mais cette question d'ablation d'oreille avait traversé les frontières. Qui pouvait exécuter ces peines-là? On a demandé aux médecins de le faire. Les médecins ont dit que leur déontologie ne leur permet pas ce genre de travail. Finalement, c'est dans les prisons, les gardiens de prison, qui ne pouvaient pas faire autrement, à qui on a demandé de de couper les oreilles.
Vous avez également abordé la question de la longévité au pouvoir qui constitue l'un des points de chute de feu empereur Bokassa. Est-ce selon vous une entrave à la démocratie?
Bokassa était d'abord un capitaine de l'armée française qui avait été transféré à l'armée centrafricaine. Il avait été fait colonel par David Dacko. Et quand il a pris le pouvoir, ensuite il s'est fait, 2 ans après, président à vie. Ensuite, ça ne suffisait pas, il s'est fait maréchal de la République. Pour terminer, en 76, empereur. Mais je n'ai pas parlé de longévité. J'ai dit de 66 à 79. Est-ce qu'une longévité, ce n'en est pas une?
Déjà l'intention de gouverner à vie, n'est-ce pas, une entrave à la démocratie?
Je n'entre pas dans les intentions. Je ne scrute pas les reins et le cœur des gens pour voir qu'est-ce qu'ils pensent et s'ils veulent rester là pendant 100 ans. Le départ de Bokassa paraissait un peuple complexe, le plus simple du monde. Il y avait question d'uniforme que les élèves de primaire et de seconde, tout ça, devaient porter comme on porte les uniformes aujourd'hui. Ça a commencé par là. Et comme il y avait 1 mois ou 2 mois d'arriéré de salaire, les enfants ont demandé qu'on paye d'abord leurs parents pour leur permettre d'acheter les uniformes. Et c'est ça envenimé.
Mais aujourd'hui, la conception des gens sur Jean-Bédel Bokassa reste encore sujet à controverse. Certains le voient comme un tyran, un dictateur, alors que d'autres le considèrent plutôt comme l'unique bâtisseur de la République centrafricaine. Mais vous, qui aviez occupé des postes de responsabilité à son époque, qui est Jean-Bédel Bokassa en dehors des qualificatifs qui lui sont attribués?
Pour moi, à l'époque où il n'avait pas encore commencé à tuer tout ça, il s'occupait seulement du pays, l'agriculture, ça marchait, les zones minières, ça marchait, le tourisme, ça marchait. Il y a les revers de la médaille. Et lorsqu'il a commencé à se prendre peut-être pour Dieu, pour Jupiter, je ne sais, c'est là que, bon, on dit qu'il est dictateur, mais il n'a pas été du 1er janvier 1960 au 20 mars 1960 dictateur.
Vous écrivez un livre historique dans un pays caractérisé par l'oralité. Comment comptez-vous le vulgariser?
Même si aujourd'hui les gens ne lisent pas beaucoup, je crois qu'avec l'évolution, demain, ils chercheront à comprendre comment le pays a été gouverné et comment l'évolution s'est faite depuis la colonisation française. Si je ne peux pas vulgariser ce livre-là aujourd'hui, ma satisfaction, c'est une modeste contribution.
Antoine Grotte, l'actualité oblige. Il y a de cela quelques jours, l'ONG internationale Human Rights Watch a rendu public son rapport sur le rétrécissement de l'espace politique, civique et démocratique en Centrafrique. Selon cette ONG, le pouvoir de Bangui empêche les acteurs de la société civile ainsi que les opposants d'exercer librement leur travail. Vous, en tant que politique, comment accueillez-vous ce rapport?
Je ne suis pas politique. Je n'ai adhéré à aucun parti politique. On fait la politique parce que c'est une science, parce que ça permet de développer le pays, mais on ne fait pas la politique pour la politique. Quelquefois, ces rapports, on ment beaucoup aussi dedans. On présente un côté parce que on est de tel bord, on ne veut pas être objectif, ce qui est bien, sous silence ou bien quelques lignes, et puis on grossit. Non, moi je crois que si c'est ça, ce n'est pas la peine.
Antoine Grotte, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.